Rébène.
Le magazine qui explore,
qui voyage, qui découvre.
J'ai découvert le Carré Libre, une école démocratique. Je suis allée à Quimper rencontrer les membres du Carré pour qu'ils m'expliquent le fonctionnement de leur école. J'ai posé quelques questions, à commencer par les valeurs de cette école alternative à Nathalie Gondon, la directrice bénévole du Carré.
Donc les valeurs d'une école démocratique, c'est la liberté d'être. On a envie vraiment de redonner aux enfants toute leur place d'enfant, avec une liberté d'agir, d'être ce qu'ils sont, avec le moins d'intrusions possibles dans leur développement, le moins d'injonctions. On estime que les enfants n'ont pas besoin de ça pour se développer au mieux, au contraire. Donc une des grandes valeurs ici, c'est la liberté. Et une autre valeur qui va complètement avec, c'est la responsabilité. C'est-à-dire que très vite, les enfants ici apprennent à être responsables de leurs actes. Par exemple, on participe tous, adultes et enfants, à l'élaboration du règlement intérieur. C'est-à-dire qu'on décide tous ensemble des règles de vie communes. Ça, c'est important pour nous. Donc la démocratie, dans le sens où chacun a son mot à dire sur les règles. On n'impose pas de règles qui n'ont pas de sens. Non, c'est tout le collectif qui réfléchit aux règles à appliquer, et on les vote donc à la majorité absolue. Une autre valeur importante pour nous, c'est la bienveillance et donc l'horizontalité entre les adultes et les enfants. C'est-à-dire qu'ici, les adultes ne sont pas les supérieurs hiérarchiques des enfants. On est juste des êtres humains qui se côtoient. On partage le même lieu de vie, donc le temps d'une journée d'école. On a des adultes ici qui encadrent les enfants, mais qui sont plus des... nous, les adultes ici, on appelle ça des facilitateurs d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on est au service du développement des apprentissages des enfants. S'ils ont besoin d'un coup de main pour avoir accès à une ressource, ils peuvent nous demander, on va les guider. Voilà, on est des guides et des facilitateurs, des éclaireurs de parcours, mais en aucun cas on est là pour remplir des vases vides. C'est-à-dire qu'on part vraiment du principe que l'enfant a tout en lui, a tout un potentiel en lui à développer. En créant cette école, on a créé donc un environnement propice à ce développement, c'est-à-dire riche en ressources et riche en humanité, c'est-à-dire un lien humain qui ne soit pas hiérarchique, hein, qui soit juste un lien de confiance et d'acceptation de l'autre. Et l'idée, c'est que dans ce climat, dans cette atmosphère, dans cette sécurité affective et physique, l'enfant peut développer à plein tous ses potentiels.
De quelle manière le Carré Libre a-t-il vu le jour ?
C'est un projet de longue date. Trois mamans se sont réunies avec vraiment dans l'idée de créer une école différente pour leurs enfants, dont je fais partie. On a, alors le premier réflexe, ça avait été d'aller vers quelque chose de très connu, comme du Montessori, ou du Freinet, ou du Steiner. Et puis... plus on avançait dans notre réflexion, plus on s'est dit qu'on n'y connaissait rien finalement et qu'on avait vraiment besoin, avant de créer une école, de savoir de quoi nos enfants avaient besoin pour se construire et se développer. Donc on a créé une association, les semeurs d'école, et on a enchaîné avec toute une série, un cycle de conférences. On a fait venir des gens pour nous parler de ce qu'on avait envie de savoir, à savoir les rythmes biologiques des enfants, le développement du cerveau, les apprentissages, comment ça marche. On a fait une découverte importante à travers Bernard Collot, qui est un instituteur à la retraite, qui a développé l'école du troisième type. Lui, il était instit dans une école, une classe unique en campagne avec peu d'enfants. Et petit à petit, il en était venu à travailler sans enseigner. C'est-à-dire, il reconnaissait à la fin que l'essentiel se passait hors du maître, hors de lui. Que les enfants apprenaient à lire sans qu'ils ne sachent vraiment comment. Il avait arrêté de donner des cours de lecture, de maths. Il laissait vivre et faire les enfants. Il se rendait compte que de là naissaient les apprentissages et les connaissances. Donc ça a été très important pour nous. Ça a été un tournant de découvrir les apprentissages informels. C'est-à-dire qu'on peut apprendre à travers une foule de choses, et en particulier à travers le jeu, que si l'enthousiasme est là, alors c'est gagné, mais que sans enthousiasme, on ne peut pas forcer un enfant à apprendre quelque chose, ou si ce n'est pas le bon moment pour lui. Donc l'idée de ne pas obliger un enfant à apprendre à lire et écrire à 7 ans, ça on est largement revenu de ça. Aujourd'hui, quand on laisse des enfants évoluer donc librement, on se rend compte qu'un enfant peut commencer à apprendre à lire à 4, 5, 6 ans, ou alors à 8, 9, 10 ans. Il n'y a pas d'âge, mais le fait est qu'à un moment donné, ils savent lire, parce qu'on est dans une société de toute façon qui est lettrée, avec énormément d'écriture. Donc les enfants rapidement ont envie, de toute façon ils ont envie de connaître le monde dans lequel ils évoluent, ils sont très curieux, donc à un moment donné ils ont envie de déchiffrer et donc ils posent des questions et hop ils apprennent à lire, enfin c'est comme ça que ça se passe ici en tout cas. Donc quand on a vraiment un projet, quand on s'est arrêté sur le projet d'école démocratique qui vient des États-Unis, qui existe en France depuis 4 ans seulement, Il y a une école à Paris, il y a 5 ans, qui a été ouverte et qui a énormément communiqué. Et quand on a vu que ce modèle existait, on s'est dit, mais c'est exactement ça qu'on veut faire depuis le début, sans avoir osé imaginer que ça pouvait exister, c'est-à-dire un lieu où des enfants sont rassemblés entre 4 et 18 ans. C'est-à-dire, il n'y a pas de primaire, de maternelle, d'élémentaire, de collège, non. On est dans de l'inter, du multi-âge vraiment complet, entre 4 et 18 ans, pas de coupure artificielle. Donc les membres se côtoient et côtoient les adultes aussi, donc on peut dire que ça va de 4 à 46 ans. Donc une fois qu'on s'est fixé sur un projet, en fait, la loi française dit qu'on peut ouvrir une école privée, hors contrat. Il suffit de la déclarer et évidemment de remplir un certain nombre de critères. Donc il y a des critères pour la direction, pour la personne qui va devenir directeur, des critères pour les personnes qui vont devenir enseignantes. Et ensuite, voilà, il y a un dossier à monter et il y a une déclaration à faire en mairie et au rectorat.
Je voulais aussi savoir comment fonctionnait le carré en interne.
Donc le fonctionnement est basé sur les apprentissages informels et la liberté, comme je disais tout à l'heure, d'être de chacun et d'aller à son rythme et de faire ce qui le motive principalement. L'école est aménagée un peu comme une grande maison avec des pièces à thème où ce collectif va évoluer par affinité, en fonction des activités de l'instant. Donc on a 380 mètres carrés d'école avec un jardin autour, une dizaine de pièces, une grande cuisine, une salle d'art, une médiathèque, une salle informatique, une salle de repos, un bureau. Et les membres arrivent le matin de manière échelonnée, ils peuvent arriver entre 9h et 10h30. Ce qui permet à chacun de respecter dans la mesure du possible son rythme. On dépose les affaires, on dit bonjour, on range son panier repas dans le frigo et la journée commence et on fait exactement ce qu'on veut de sa journée. C'est-à-dire, je peux reprendre une activité que j'avais entrepris la veille, je continue un jeu que j'avais commencé avec les copains. On a vraiment, on a toute l'attitude de faire les actions, les jeux ou de ne rien faire, c'est-à-dire de faire vraiment ce qui nous motive. Dans la limite, et je parlais tout à l'heure aussi de responsabilité, dans la limite du respect du règlement intérieur. C'est-à-dire, il n'est pas question, c'est pas l'école du n'importe quoi ou l'école du chaos, non. C'est une école où on fait très attention à respecter les autres et le règlement intérieur. Donc il y a des règles de vie, il y a des pièces où le calme doit être respecté, il y a des matériels qu'on utilise d'une certaine manière. Donc chacun évolue en étant conscient de ce règlement, en étant sécurisé en même temps par le fait qu'il y ait ces règles-là, mais par contre en respectant tout à fait son élan spontané vers tel ou tel apprentissage. Mais ça va passer chez les enfants, en particulier les plus jeunes, par le jeu, c'est-à-dire des enfants de les premières années, hein, entre 4 et 10 ans. Ce qui va guider énormément les journées, c'est à quoi j'ai envie de jouer aujourd'hui et avec qui. Et on a tout à fait confiance que c'est à travers justement ces moments de jeu non interrompus que l'enfant va pouvoir développer tout un tas de connaissances et de langage, que ce soit le langage verbal ou le langage mathématique ou corporel. On a confiance dans le fait que les enfants vont se construire là-dedans. Donc une journée, il n'y a pas de journée type au carré libre. Les semaines sont rythmées par le conseil d'école qui se réunit une fois par semaine. Justement, c'est l'occasion de fixer les nouvelles règles. Si quelqu'un a des propositions de nouvelles règles, on les discute, on les vote en conseil d'école. Et deux fois par semaine, on a un conseil de justice qui se réunit pour traiter de toutes les transgressions aux règles. Si j'observe un membre qui ne respecte pas une règle, je peux le notifier. Je fais un papier, une requête que je soumets au conseil de justice. Le membre en question va venir s'expliquer, va venir, bah oui, je reconnais avoir fait du bruit dans la médiathèque alors que c'était interdit, je le savais, ok. Et donc le conseil de justice, 5 membres de tout âge, représentant les membres de l'école, vont voter une solution. Et en l'occurrence, ça sera toujours quelque chose en lien avec la règle transgressée. Là, ce serait par exemple une privation de liberté. Donc pendant un jour ou deux, tu n'auras plus le droit d'aller en médiathèque. Et tout le monde vote et tout le monde est normalement la personne qui a elle-même transgressé la règle, donne son avis, c'est-à-dire en général elle est ok avec la solution. Les repas, donc chacun amène son panier repas et les enfants mangent à l'heure où ils ont faim, tout simplement. C'est-à-dire que ici on essaie vraiment de laisser la liberté à chacun d'aller à son rythme, d'apprendre à connaître ses rythmes. C'est-à-dire on a des enfants qui à 10h30, 11h ont déjà envie de passer à table parce qu'ils se sont levés tôt, parce qu'ils ont très peu déjeuné et c'est ok, donc ils se mettent à table, à réchauffer leur plat à 10h30, 11h, et d'autres vont passer la journée sans se rendre compte, enfin sans avoir faim, sans avoir envie de manger. Donc on peut trouver des enfants qui mangent à 16h ou qui ne prennent pas le temps de manger. Et c'est ok. À partir du moment où on voit que l'enfant est en mouvement, en vie, en état de joie et d'intérêt et de passion pour ce qu'il fait, en fait c'est gagné quoi, la journée est gagnée.
Je voulais savoir s'il y avait des limites à cette forme d'éducation, je sais pas si on peut appeler ça comme ça.
Des limites à cette forme d'éducation, ouais, je suis pas sûre de comprendre la question en fait, on préciser.
Dans le sens où est-ce que ça va vraiment correspondre à chaque enfant ou est-ce que ça peut arriver qu'il y ait des blocages avec certains enfants.
Alors, cette école, effectivement, n'est pas forcément adaptée à tout le monde. En théorie, oui. C'est-à-dire que si on laisse la liberté à un enfant de se développer sans jamais aller contre son enthousiasme, le mettre dans des apprentissages forcés, je pense que, en théorie, c'est quelque chose qui peut convenir. Sachant que dans le principe même de l'école, si un membre se rend compte qu'il a besoin d'avoir des cours structurés, il a le droit aussi. C'est-à-dire qu'ici, on n'apprend pas forcément que de manière informelle. On peut décider à un moment donné, un membre, dire bah, « Tiens, moi je prépare mon bac, là j'aimerais bien avoir des cours de philo, des cours de maths, et on va tout mettre en œuvre pour que ça soit possible. » Objectivement, oui, chacun peut y trouver son compte ici. Simplement, là où on en est, au niveau du paysage éducatif national, au niveau de la loi, au niveau des mentalités, ce qu'on a rencontré, nous, depuis l'ouverture, c'est que beaucoup de familles ne sont pas prêtes, n'ont pas envie de faire ce choix-là, sont encore très convaincues qu'il y a un seul moyen d'apprendre, c'est qu'un enseignant se mette au-dessus de l'enfant et dise « Voilà, moi, je vais déverser en toi mon savoir. » Et sans quelqu'un au-dessus qui t'apprenne tout ce que t'as à savoir, tu ne deviendras rien, tu ne sauras rien. Ça, c'est une croyance qui est encore très forte, en fait, dans notre pays. Notre idée à nous, c'est de surtout ne brusquer personne. On ne cherche même pas à convaincre les gens. Nous, on se contente de laisser venir à nous les familles qui sont déjà convaincues qu'il y a un autre moyen de faire les choses. On n'est vraiment pas là pour faire du forcing, pour convaincre tout le monde de nous rejoindre. Non, on a nos convictions, on a fait notre expérience. Moi, j'ai mis mes enfants à l'école en maternelle. On a énormément d'enfants qui arrivent, qui sont en phobie scolaire, en décrochage, qui n'arrivaient plus à aller à l'école, qui avaient la boule au ventre, qui étaient persuadés d'être nuls. Il y a vraiment beaucoup de souffrance. Donc l'idée, c'est toutes ces familles-là qui ont besoin clairement d'un plan B, en fait. Nous, on leur dit, voilà, nous on est là, voilà ce qu'on propose. On fiche la paix aux enfants, c'est-à-dire on leur met pas la pression, on n'est pas là pour les juger. C'est pas à nous de faire sentir un enfant qu'il est nul ou pas. Personne n'est nul, en fait. Tout est OK. Tout ce que propose un enfant spontanément, tous les élans qu'il a, en fait, pour nous, c'est OK et tous ont la même valeur. C'est-à-dire, tu veux grimper aux arbres toute la journée, c'est OK. On te fait confiance, c'est de ça dont tu as besoin en ce moment, et tu développes quelque chose à travers ça. On le sait, si on pousse l'analyse, que ça développe énormément la motricité, la latéralité, la confiance en soi, le fait de grimper un arbre, ça développe plein de choses. Donc, tout est OK. T'as envie de dessiner toute la journée, bah vas-y, développe ta fibre artistique, il n'y a pas de souci. Et on sait aussi qu'à un moment donné, s'il y a besoin d'acquérir des notions de mathématiques ou de physique, et ben ça va se poser là. Si tu sens que t'en as besoin, si ton projet c'est de faire des dessins animés, du graphisme, de l'animation, on sait que petit à petit, tu vas aller les chercher, les connaissances dont tu auras besoin pour développer ton métier. Mais le point de départ, c'est vraiment fais-toi confiance, nous on te fait confiance, donc vas-y. Et donc, pour l'instant, on a juste rassemblé les familles qui en étaient là de leur réflexion. Donc c'est vraiment un choix de vie en fait. C'est-à-dire, je fais le choix conscient que le système classique ne convient pas à mes enfants, soit parce qu'il y a trop de... il y a trop de souffrance déjà, ou même sans attendre la souffrance, c'est un fonctionnement qui ne me convient pas. On a énormément d'enfants précoces aussi qui arrivent ici, dont le fonctionnement par pensée arborescente, par le fait de voir, d'avoir une vision globale des choses et d'avancer par paliers. Et pas un enfant précoce ne peut pas apprendre avec des bouts de savoir tout morcelés qui n'ont pas de sens. Donc on répond à pas mal de demandes finalement. On se rend compte qu'il y a quand même pas mal de familles pour qui on a une vraie solution, un vrai plan B sérieux quoi. Donc pour l'instant on en est là. Mais effectivement pour plein d'autres familles c'est pas du tout envisageable ce qu'on propose nous. Et c'est pas grave. On n'est pas là pour faire de la pub, pour dire c'est nous les meilleurs, pas du tout. Non, nous on veut que les enfants soient bien. On partage avec les familles la même vision, le même point de vue. Et donc on est vraiment heureux d'offrir à nos enfants cette possibilité-là. Et chaque jour, on est ravis de ce qu'on observe dans l'interaction entre les membres, entre 4 et 18 ans, dans la joie qu'ils ont à venir, à être là, l'absence de peur qu'ils ont, c'est-à-dire qu'on le voit dans le relationnel avec nous, les adultes encadrants, ou avec n'importe quel autre adulte, ils vont être à l'aise tout de suite, il va pas y avoir la peur du... Ouais, la peur de l'adulte, la peur de la blouse blanche, la peur de... Non, c'est OK, en fait, on est juste des êtres humains qui évoluons ensemble. Moi, adulte, je suis passée par plus d'expérience que toi juste parce que j'ai plus d'années que toi, mais je sais pas forcément beaucoup plus de choses que toi, et tu vas pouvoir m'apprendre, toi, jeune membre, des choses de la même manière que moi je vais pouvoir t'en apprendre, quoi.
Pendant mon passage au carré, j'ai eu l'occasion de discuter avec les membres. Perrine, Thomas et Louisa ont accepté de s'exprimer au micro.
Tu vas en quelle école et t'es en quelle classe, Chujan?
Alors, assieds-toi, ça va prendre un peut-être pas de temps.
T'es obligé de justifier ta
après
vie comme
tu,
ça.
Après, tu as pas... Et
tu te confrontes au regard des gens.
J'ai pas compris.
C'est dur, ça, pour vous, le regard des gens, par rapport à votre choix, du coup, d'école?
Pour ça, spécifiquement. Personnellement, ça fait plusieurs années, longues années, que je suis dans le milieu des écoles pas démocratiques, mais alternatives. Donc, je suis un peu habituée au final, mais Je pense que je m'y suis fait, personnellement. C'est plus un truc qui me dérange, je me dis, mais de toute manière, vu les conditions dans lesquelles je suis en dehors de ce genre d'école, ça vaut même pas la peine de me poser la question de si ça va plaire aux gens ou pas, en fait.
En fait, genre, dans la tête des gens, c'est tellement important. C'est quand tu regardes un ado, un enfant, tu sais son genre, son âge, et tu dois savoir dans quelle classe il est, donc... Forcément, quand tu rencontres des personnes que tu connaissais il y a longtemps ou des nouvelles personnes, bah, t'es obligé d'expliquer ça. Et c'est ne serait-ce que le fait de l'expliquer. Le regard des gens, il n'est pas forcément méchant, il est juste inconscient. Et du coup, on doit expliquer, on doit dire mais si, mais c'est un vrai choix de vie et c'est vraiment légitime. Et
c'est
normalement...
pas juste que je veux rien faire de mes journées parce que je suis feignant, quoi.
Et je suis pas censée te le prouver, mais en même temps, tu me regardes d'un air qui prouve que je dois t'expliquer des trucs. Et mais ouais, en effet, pour ce que ça apporte, devoir expliquer à des gens, c'est pas grave.
En fait, quand j'ai bougé ici, ma mère, il y avait plein d'écoles autour, et elle a dit « Ah tiens, il y a une école démocratique !» Parce qu'on avait parlé plein à la maison, mais j'ai jamais appris comment c'était. J'ai jamais su, en vrai. Et j'étais comme « Oh, j'aimerais trop !» Mais en fait, il n'y avait pas de place au début, du coup j'étais genre... Ok, on va devoir chercher d'autres écoles. Mais finalement, ils m'ont acceptée, du coup j'étais... Ouais.
Parce qu'en Angleterre, t'étais pas dans des écoles alternatives ?
Non, j'étais une école normale. Hein.
Moi, pour le coup, mes parents, ils voulaient juste pas... Ça a été une guerre pendant des mois et des mois pour convaincre mes parents que mon état mental justifiait la sortie de l'école normale et l'entrée dans ce genre d'école-là. Et ça a été compliqué parce que j'ai aussi le projet de passer le bac et ça fait peur quand tu entres dans le bâtiment, que tu vois plein d'enfants jouer partout et que tu te dis bah, une personne va passer son bac dans ce bâtiment-là. Et ça a été beaucoup, beaucoup de difficultés d'essayer de convaincre et tout. Et c'est avec des arguments qui tiennent plus forcément aujourd'hui que j'ai réussi à convaincre. Et aujourd'hui, j'en suis fière parce que eux-mêmes voient ce que ça me fait de bénéfique en fait. J'avais des gros problèmes pour le fait de trouver ma place, de beaucoup beaucoup d'anxiété. J'avais l'impression qu'on me prenait toujours pour un moins que rien, etc. Et cette école, elle permet de construire les projets qu'on veut, de prendre les responsabilités qu'on veut et de surtout pas avoir de place hiérarchique. T'as une place. Et c'est la même place que tout le monde dans l'école, c'est pas une place où t'es un élève, au-dessus de toi il y a le prof, au-dessus il y a le CPE, au-dessus du CPE il y a un principal adjoint, et après il y a le principal, je trouve ça juste toxique, et je me sens beaucoup mieux dans ce genre d'école-là.
C'est ta première école alternative du coup ici, le Carré ?
Oui, ouais. Oui, j'ai toujours été très normale jusqu'ici, j'ai toujours été dans des écoles publiques, l'école de ma ville, et voilà, sans plus chercher, mais j'ai eu des difficultés au collège qui se sont renforcées au lycée, alors qu'on avait déjà choisi un lycée qui n'était pas mon lycée de secteur pour que je m'y sente mieux, avec plus de projets, etc. Sauf que j'ai pas tenu, j'ai réussi à tenir jusqu'à la fin de l'année, difficilement, grâce aussi à un médecin qui voulait bien me faire des arrêts d'une semaine, d'une demi-semaine, etc. J'ai réussi à finir l'année, j'ai été acceptée en première S. Et j'ai dit, je veux plus jamais revivre ça, surtout pas en général, surtout pas avec les mêmes profs et le même système. Surtout qu'à côté, il y avait Perrine, ma copine, qui est rentrée dans cette école où les parents étaient très motivés à venir, commençaient à chercher des maisons, et moi j'étais un peu là, genre à côté. Sauf que comme ses parents ils m'aiment beaucoup, en fait, ils m'ont embarqué dans le projet. Au début, c'était pas sérieux, et en fait, quand ça s'est concrétisé pour eux, bah, ça c'est la blague qui était un peu ma présence dans le projet, s'est concrétisée aussi. Et en fait, ça a été la plus belle chose qui ait pu m'arriver ces dernières années, qu'il y ait eu des gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont intégré dans un projet où j'avais rien à faire de base.
J'habitais en Angleterre aussi, et quand je venais d'apprendre que l'école m'acceptait, je disais aux gens, ma prochaine école, en fait, je rentre pas au collège, j'y vais à une école démocratique. Et il y avait la moitié de mes copines qui étaient comme « Oh, ouais, t'as trop de chance, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux de ta journée. T'as trop de chance et tout ça. » Et il y en avait d'autres qui étaient comme « Mais tu vas jamais apprendre quoi que ce soit et tu vas devenir débile et tout ça. »
Il y a énormément ce côté de devenir idiot.
Ouais.
Genre, parce que tu vas dans un contexte où on ne t'oblige pas à avoir des cours d'une manière très spécifique, à prendre les cours de ton prof alors que peut-être qu'il n'est pas si intelligent que ça.
Tu te reverras, tu ne sauras rien.
Oui, et puis il y a ce truc de devenir débile, quoi. Genre, et puis déjà, débile, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne m'imposes pas ta version de l'intelligence, s'il
te plaît. Mais c'est une version qu'on impose à tout le monde, en fait.
Il y a ce côté, mais tu vas devenir un légume, quoi. Genre, tu vas pouvoir rien faire. Parce que on va pas te l'imposer, tu vas rien faire. Parce que t'es une feignasse.
C'est ça. Je trouve justement que devenir débile, ça arrive à plein de gens. Justement parce qu'ils restent dans une éducation de consommation. Dans l'école classique, t'es assis sur une chaise, il y a une personne qui te parle et qui te donne du savoir que t'es obligé d'ingérer. Moi, c'est comme ça qu'on... Enfin, par rapport à cette école-là, là où on devient débile, c'est clairement pas ici, pour moi, parce que, je sais pas, ouais, je devenais... J'ai l'impression que l'année dernière, dans une école classique, je devenais débile, parce que on m'imposait 10 heures de cours à faire des trucs que je comprenais à peine, qui étaient sur des bases que j'avais pas, et je forçais. Le matin et le soir, j'étais incapable de sortir un mot parce que j'étais crevée. Je devenais débile. Tout ce que je savais faire, c'était les cours. Et j'étais pas mauvais en cours en plus. Et c'est pour ça qu'on n'a pas aussi accepté que je sorte.
Ouais, l'école classique aussi, j'avais l'impression que je devenais aussi un peu débile. Parce que tout ce que je faisais, c'est que je me réveillais et j'écoutais. Et je faisais le travail sans me poser aucune question.
Il y a ce truc de tu remets pas en question, quoi.
C'est fou.
Sois gentil et avale le savoir que je te force à débiter sans remettre quoi que ce soit en question. Et derrière, je sais que moi j'étais arrivée à un point où la remise en question, elle était allée à un point où je pouvais pas revenir en arrière. C'était trop tard. J'avais trop remis en question pour revenir à un état de consommateur, en fait. Genre ici, si tu veux apprendre quelque chose, par le fait que, techniquement, tu peux appeler des profs, mais c'est toi qui vas le chercher. C'est toi qui... Parce qu'il y aura personne qui va te pousser au cul sans te demander ton avis, et par ce fait-là, tu es acteur de ton travail.
Puis il y a la question de pourquoi j'étudie ça aussi. Puisqu'il y a ce truc de comment est-ce que je vais étudier, et il y a ce truc de pourquoi je vais étudier. C'est-à-dire que tu vas en cours, t'étudies. Combien de fois dans l'éducation classique j'ai entendu, mais monsieur, madame, à quoi ça sert ça plus tard? Je l'ai entendu des dizaines de fois et je suis allée que jusqu'à la seconde. Et je trouve ça aberrant. Ici, tu étudies quelque chose, tu sais pourquoi. Tu sais le besoin qu'il y a derrière, parce que justement, ici, tu veux faire quelque chose qui est en-delà du cours. Et tu te dis, ah bah mince, j'ai pas ces clés-là pour y arriver. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, je vais étudier ça. J'ai l'impression que l'éducation classique, elle marche à l'envers. C'est-à-dire qu'on t'apprend un maximum de choses en te disant, ça te servira plus tard. Ici, on fait des choses, et quand il y a des clés qui nous manquent, et ben on les apprend. Et je pense que pour construire un avenir, c'est hyper important ça aussi. C'est-à-dire que... dans une éducation classique, c'est tu fais des études pour avoir ton bac, pour aller dans des études supérieures, pour avoir un travail. Ici, on se construit, on comprend ce qu'on veut faire plus tard, ce qu'on veut que ça occupe notre quotidien. Et puis après, on se dit, du coup, je vais en faire un travail. Et après, on se dit, du coup, qu'est-ce qu'il me faut pour arriver ici. Et donc là, on comprend qu'il nous faut soit un bac, soit pas un bac, soit une école particulière, soit pas, des savoirs qu'on peut apprendre dans cette école ou grâce à d'autres choses. Je trouve ça beaucoup plus logique et ça te construit beaucoup plus en tant que personne de responsabiliser en fait un enfant. On a tendance à se dire, un enfant, il saura pas ce qu'il veut, donc en attendant, on va pas le laisser rien faire et on va lui apprendre des choses, ça l'aidera plus tard.
Un enfant ne sait pas.
Alors qu'un enfant,
savoir ce qu'il veut.
Et ça se voit dans cette école à fond. Ça va, Ambre ? Et ça se voit dans cette école à fond, un enfant sait ce qu'il veut faire. un enfant a des envies, a des projets qu'il sait construire du début à la fin.
C'est pas ce que tu veux qu'il fasse, mais c'est ses envies à lui.
S'il a une envie, s'il a un projet, mais tu peux pas arrêter un enfant. Il fera n'importe quoi pour réussir à trouver de quoi faire un objet en truc recyclé. Et ben, il ira chercher dans des poubelles, même si tu veux pas. Il ira chercher ça, il collera comme il veut et il saura le faire. Et tu l'auras poussé à rien, et juste, là on a eu un exemple, à la sortie de Toy Story 4, il y a un enfant qui a voulu créer le personnage fourchette. Donc, c'était une fourchette en plastique avec des décorations. Et ils étaient 3 dans la salle d'art à récupérer des fourchettes et à mettre toutes les décorations qu'ils voulaient dessus. Est-ce que quelqu'un l'a poussé ? Non, et pourtant c'est un travail qu'on pourrait faire en art plastique au collège quoi. On se rend bien compte qu'un enfant, il sait ce qu'il veut, il est capable de faire un projet. Et même quand on a l'impression qu'il fait rien, puisqu'il fait pas comme on veut, et ben il fait quand même. Et ça, on peut pas stopper l'esprit, et l'imagination et l'énergie d'un enfant, surtout l'énergie d'un enfant.
C'est ce que j'ai réalisé. Je perdais ma créativité, en fait. J'avais une tonne de créativité avant d'aller à l'école. J'ai passé une tonne de temps à faire les choses que j'aimais. Mais quand je suis entrée à l'école, en fait, j'ai perdu tout ça. Et je pensais que... En fait, j'avais perdu tout ce que j'avais pour créer des choses. Du coup, je savais plus quoi faire. J'étais devenue un robot, en fait, qui devait suivre les instructions des profs. C'était tout.